une question dont la réponse en étonnera plusieurs. À qui appartiennent la terre et la mer? Les Saintes Écritures vont nous faire voir la pensée de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je suis persuadée qu'on va tous mieux connaître notre Dieu merveilleux aujourd'hui. Alors que le livre de l'Apocalypse va répondre aux questions que voici. Quand le livre de l'Apocalypse nous mentionne un petit livre ouvert, de quel livre parle-t-il? À qui appartient la terre? À qui appartient la mer? Est-ce que la grande tribulation va durer longtemps? Pourquoi devons-nous prendre le temps d'étudier la Bible sérieusement? Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il défendu formellement à Jean d'écrire le contenu du message des sept tonnerres? Qu'est-ce qui prouve que l'ange que Jean a vu dans sa vision n'était pas le Seigneur Jésus? Les élus qui seront sur la terre pendant la grande tribulation auront-ils le courage de subir sans faillir la dure épreuve qu'ils vont traverser? Restez là, le pasteur et Jean Joly est sur le point de nous donner les réponses de Dieu à chacune de nos questions. Elles sont toutes dans la Bible, mais premièrement, remercions Dieu pour la manière dont il enrichit nos vies par sa merveilleuse parole. Prions. Oui, Seigneur, tu enrichis nos vies par ta parole. Tu nous donnes une vie encore plus abondante. Tu nous donnes du courage. Alors, touche nos cœurs par ta parole aujourd'hui et aide-nous à la mettre en pratique. Donne-nous ta force pour la pratiquer d'une manière digne de toi chaque jour. Amen. À toi, Réjean.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous continuons notre étude du livre de l'Apocalypse au chapitre 10, le petit livre. Lisons Apocalypse chapitre 10, les versets 2 et 3. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Je crois que ce petit livre, ou parchemin, est le livre aux sept sceaux vu précédemment. Plusieurs raisons m'ont conduit vers cette conclusion. La première est simplement qu'aucun autre livre ne nous a été présenté jusqu'ici. Et il est seulement identifié de cette façon, un petit livre ouvert. Or, pourquoi l'apôtre Jean nous préciserait-il que ce petit livre est déjà ouvert sans autre explication, si nous ne savions pas déjà comment il a été ouvert? Lorsque Jésus a rompu les sept sceaux qui le maintenaient fermé. Cependant, on remarque un fait nouveau. Dans le texte original grec, le mot utilisé pour le livre aux sept sceaux n'est pas le même qu'ici. Le mot utilisé pour le premier est « biblion », d'où nous tirons nos mots « bible » et « bibliothèque ». Mais ici, le mot utilisé est le diminutif « bibliaridion ». C'est pourquoi nous le traduisons par « petit livre ». Il est quand même possible qu'il s'agisse du même livre. Précédemment, la caractéristique principale du livre était les sept sceaux qui le maintenaient fermé. Mais maintenant que les sept sceaux sont enlevés, la caractéristique dominante du livre est qu'il est petit. S'il s'agit effectivement du même livre, il est opportun de rappeler qu'il était d'abord entre les mains de Dieu le Père au début du chapitre 5. Il est ensuite remis entre les mains de Jésus-Christ, Dieu le Fils, car il est le seul à être digne de l'ouvrir. Après avoir rompu les sept sceaux, les trompettes ont commencé à sonner. Nous en avons déjà entendu les six premières, mais la septième reste encore à venir. Ces sept trompettes font partie du contenu du livre. Donc, après avoir enlevé les sept sceaux, le livre passe des mains percées de Jésus-Christ aux mains de l'ange. Plus tard, nous verrons ce dernier remettre le livre entre les mains de l'apôtre Jean, afin qu'il le mange. On se rappelle que nous avons vu cette même chaîne de transmission des connaissances au début de l'Apocalypse. Dieu révèle des choses à son Fils Jésus-Christ, qui les révèle à l'ange, qui les révèle enfin à l'apôtre Jean. à qui appartient la terre. Ce livre contient le titre de propriété de la terre. Il contient aussi les jugements de la grande tribulation que notre Seigneur Jésus-Christ exercera avec puissance. Le livre est maintenant ouvert et les jugements peuvent maintenant être vus par tous les hommes. Par l'autorité de ce livre, l'ange peut réclamer la domination sur la terre et la mer au nom de Jésus-Christ. Il pose un pied dans la mer et l'autre pied sur la terre en les revendiquant tous deux au nom de Dieu. Dans Lévitique, chapitre 25, verset 23, l'Éternel donne ses instructions au peuple d'Israël concernant le droit de propriété de la terre qu'il remet entre leurs mains. « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Il y a quelques années, j'ai acheté une maison avec le terrain sur lequel est construite la maison. J'en détiens le droit de propriété. Le titre de propriété a été transféré de l'ancien propriétaire à moi. Et avant que ce dernier en fasse l'acquisition, il avait acheté le terrain de quelqu'un d'autre. Je vis dans la ville de Québec, au Canada, et ce terrain est sans doute passé entre plusieurs mains depuis la fondation de la ville, il y a 4 siècles. Mais la question se pose. Ai-je le droit de dire que cette terre m'appartient? Je ne le crois pas, car le titre de propriété ne remonte pas encore assez loin dans le temps. Avant la fondation de la ville de Québec, cette terre appartenait sans doute aux Indiens. Je dis « sans doute », car je me suis laissé dire que, dans la culture amérindienne, la terre appartient à tout le monde. Quand les Blancs sont arrivés en Amérique, ils ont pris et volé ces terres aux Indiens. Et avant cela, quand les Indiens sont arrivés, l'ont-ils pris de quelqu'un d'autre ou ont-ils simplement pris possession d'un terrain vacant? Nul ne le sait, car aucun acte écrit de propriété ne remonte aussi loin. Mais en réalité, cela n'a aucune importance, car au fond, mon terrain appartient à Dieu. Et non seulement mon terrain appartient à Dieu, mais l'argent avec lequel j'ai acheté ce terrain à un autre homme appartient aussi à Dieu. Tout appartient à Dieu, comme l'enseigne le psaume 24, verset 1. Écoutez attentivement. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À Dieu seul. Dieu ne revendique pas seulement la terre pour lui, mais également la mer. Le psaume 8, versets 7 à 9, nous le confirme. Il nous enseigne ce que Dieu a remis entre les mains des hommes. En voici la lecture. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et quand Dieu a-t-il remis toutes ces choses aux hommes? Dès le tout début, comme on peut le voir dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 30. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. La terre et la mer appartiennent entièrement à Dieu. Il les a remis entre les mains des hommes qu'il a créés. Les hommes sont seulement des locataires sur cette terre, et plusieurs d'entre eux ne veulent même pas payer leur loyer. Ils ne veulent même pas reconnaître l'existence du propriétaire. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils pour faire valoir ses droits. Et qu'ont fait les hommes de lui? Nous avons la réponse dans l'Évangile selon Luc, chapitre 20, verset 14. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Mais un jour, le Fils reviendra avec puissance et il prendra ce qui lui appartient, en l'arrachant des mains des puissants de ce monde, et ils n'y pourront rien. » Dans notre récit, l'ange réclame la terre et la mer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Christophe Colomb est arrivé dans les terres inconnues qui allaient devenir l'Amérique, il est débarqué de son bateau et il a planté, sur la plage, le drapeau de l'Espagne. Il revendiquait cette terre au nom du roi et de la reine qui l'avait envoyé. Cette méthode est employée de temps à autre. Quand les Américains sont allés sur la Lune, ils ont planté le drapeau de leur pays. Quand les hommes pénètrent dans un territoire inconnu ou vacant, ils le réclament pour eux. Or, l'ange avec son titre de propriété bien en main, pose un pied dans la mer et l'autre sur la terre, d'une voix forte. Il réclame le tout au nom de Jésus-Christ. Quand cette prophétie apocalyptique se réalisera, les royaumes de ce monde deviendront le royaume du Seigneur Jésus-Christ par son jugement. Il a créé ce monde et il l'a racheté. Ce monde lui appartient donc de droit. Et à ceux qui se demandent pourquoi il permet toutes ces calamités, posez-vous la question suivante. Est-ce que les hommes remplis d'avidité et de convoitise lui remettraient la terre de plein gré s'il le leur demandait? Jésus-Christ est venu marcher parmi nous une première fois, plein de douceur et d'humilité, il y a 2000 ans. On connaît la suite. La prochaine fois, il reviendra avec puissance et jugement. Encore un peu de temps. Le livre est appelé ici un petit livre, car la grande tribulation ne durera pas très longtemps. Au moment où ces choses arrivent, nous sommes environ à mi-chemin. On nous fait savoir qu'il ne reste plus tellement de temps. Il ne reste plus grand-chose à écrire. C'est pourquoi le livre est peu volumineux. Comme il est écrit dans la lettre de Paul adressée aux Romains chapitre 9, verset 28, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. La grande tribulation sera de courte durée, car le Seigneur Jésus l'a affirmé. Selon le prophète Daniel, elle durera 7 ans. Ce n'est pas tellement long. Par les 7 tonnerres, Dieu signifie son accord aux réclamations de l'ange. Lisons le psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Et maintenant, le livre de Job, chapitre 37, verset 5. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait retentir sa voix comme le tonnerre. Écoutez ces commentaires intéressants de Vincent. Les Juifs parlaient souvent du tonnerre comme étant les 7 voix. Dans le court psaume 29, la voix de l'Éternel est mentionnée 7 fois en diverses. Israël identifie le tonnerre à la voix de l'Éternel et aux 7 voix de Dieu. Nous devons prendre le temps d'étudier sérieusement la Bible, car la Bible s'interprète elle-même. Mais si nous essayons d'interpréter la Bible selon notre propre grille d'interprétation, les Écritures demeureront mystérieuses et symboliques. Car notre grille d'interprétation est produite par le monde et le siècle où nous vivons. Or, par la foi, nous pouvons approprier personnellement la grille d'interprétation de la Bible. Car Dieu ne veut pas nous voir conformés au siècle présent, mais à l'image de son Fils Jésus-Christ. Malheureusement, plusieurs commentateurs bibliques tentent de faire cadrer la parole de Dieu dans leur système d'interprétation préconçu et extérieur à la Bible. Vous connaissez l'histoire de Procuste? Dans la mythologie grecque, Procuste est un brigand particulièrement cruel envers ses victimes. Il étend les personnes de grande taille dans un petit lit pour couper les bouts qui dépassent. Quant aux personnes de petite taille, il les place dans un grand lit et il les étire jusqu'à ce que les bouts rejoignent les bords du lit. Certains théologiens adoptent ce genre d'attitude quand ils interprètent la Bible. Si un passage ne leur plaît pas, parce qu'il ne cadre pas dans leur système, ils le coupent en prétendant qu'il a été rajouté plus tard par un copiste négligent ou autre chose. Si un passage leur plaît, Ils s'étendront longuement sur lui en disant qu'il a été copié d'une mythologie païenne et ils lui donneront une importance démesurée par rapport à son contexte biblique. Au lieu de chercher à couper ou à rallonger la parole de Dieu, laissons-la dire simplement ce qu'elle a à nous dire. Laissons-la nous transformer à la ressemblance de Dieu au lieu de chercher à la transformer à notre propre ressemblance. Ici, laissons l'apôtre Jean nous partager son message, celui qu'a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Les sept tonnerres décrits ici sont tout simplement la voix de Dieu. Il est même possible que cela soit la voix de Jésus-Christ, maintenant rendu au ciel. Il confirme que les actions de l'ange sont conformes à sa volonté. Et bientôt, il reviendra lui-même sur la terre avec puissance afin de réclamer ce qui lui appartient. Le message scellé. Apocalypse, chapitre 10, verset 4. « Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » L'apôtre Jean s'apprêta à écrire le message des sept tonnerres. Ces derniers parlaient donc d'une manière intelligible. En plus de donner leur accord aux actions de l'ange, les sept tonnerres livraient un message. L'apôtre Jean s'apprêta à écrire ce qu'il avait vu et entendu, comme on lui avait demandé de le faire. On se rappelle la consigne au premier chapitre, verset 19. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Mais, au moment où il allait écrire le message des sept tonnerres, on le lui a défendu. Cela peut sembler étrange et étonnant. Après tout, le livre de l'Apocalypse est censé être un livre de révélation. Alors, pourquoi cherche-t-on à cacher certains éléments? C'est le seul endroit du livre où l'apôtre Jean reçoit l'ordre de sceller les paroles entendues afin de ne pas en révéler le contenu. Dieu nous précise pourtant à la fin du livre qu'il nous a tout dit sans rien retenir. Car il a décidé de révéler sa volonté aux hommes, comme on peut le voir dans Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Le message des sept tonnerres est scellé, car Jean ne reçoit pas la permission de l'écrire. À travers les siècles, de nombreux commentateurs ont prétendu connaître ce message. Certains ont spéculé toutes sortes de bizarreries. Par exemple, Vintringa a identifié les sept tonnerres aux sept croisades. D'Ambuse en a fait les sept nations ayant reçu les doctrines de la Réforme. Eliot pensait qu'ils étaient le message du pape contre Luther. Plusieurs cultes modernes prétendent révéler ce message. Mais le Seigneur Jésus-Christ a formellement défendu à l'apôtre Jean d'écrire le contenu du message. Ces paroles devaient demeurer scellées. Elles sont restées un secret jusqu'à ce jour, et personne ne sait ce qu'elles étaient. Si nous prétendons connaître le contenu de ce message, le temps nous démontrera notre erreur. Nous serions mieux avisés de chercher simplement à comprendre ce qui nous est clairement révélé pour en tirer leçon. Un serment solennel. Revenons au texte. Poursuivons notre lecture en lisant Apocalypse chapitre 10, les versets 5 et 6. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. L'ange nous donne lui-même une autre preuve qu'il ne peut pas être Jésus-Christ. Il jure par le nom du Dieu Très-Haut. Et l'ange leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles. S'il était Jésus-Christ, il aurait juré en son propre nom. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apporte la précision suivante. Dans son Épître, au chapitre 6, verset 13, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Dieu ne pouvait jurer par personne d'autre que lui-même, car personne d'autre n'est plus grand que lui. » Or, dans notre passage, l'ange jure par un autre que lui-même parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'est donc pas le Seigneur Jésus, car ce dernier est lui-même Dieu, la parole incarnée, le Créateur de toutes choses, comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Seul Dieu est éternel, et dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus proclame son éternité. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et dans Colossiens, cette lettre écrite par l'apôtre Paul, chapitre 1, verset 16, il est écrit, « car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » L'ange prête serment au nom de Jésus-Christ. En tant que représentant de Jésus-Christ, il prend possession de la terre et de la mer en son nom. Qu'il n'y aurait plus de délai, précise le texte de l'Apocalypse. Cette annonce du ciel est une source d'encouragement pour les saints qui souffrent encore la persécution sur la terre pendant la grande tribulation. Ceux-ci se demandent sans doute combien de temps cela durera. La réponse est que, dans peu de temps, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ceci confirme les paroles de Jésus-Christ que nous pouvons retirer de l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. L'ange fait savoir aux élus que le temps de leur souffrance tire à sa fin. Il leur dit, « Ne vous inquiétez pas, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu le sceau de Dieu et ils auront le courage de subir sans faillir la dure épreuve de la grande tribulation. » Cette annonce est en même temps une réponse à la prière des martyrs faite dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 10. En voici la lecture. « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Elle est aussi l'accomplissement d'une autre prière plus connue, le Notre Père, et plus particulièrement cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, le verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La grande tribulation tire à sa fin. Le temps où Jésus-Christ viendra inaugurer le royaume de Dieu sur la terre s'approche, mais nul ne sait quand ces temps viendront. Certains prétendent que nous les vivons déjà, mais ce n'est pas mon avis. Ces temps viendront, mais nul ne sait quand. Peut-être l'an prochain, peut-être dans plusieurs siècles. Nul homme sur terre ne peut le dire avec certitude. Mais un jour, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ça, c'est sûr et certain, parce que la promesse nous est faite dans les Saintes Écritures. Tout comme nous avons pu voir cette première venue se réaliser, lorsque Jésus est arrivé sur cette terre en tant que Sauveur et Seigneur, il va nous arriver une seconde fois, et là maintenant il va démontrer sa toute-puissance. Oui, pour l'instant c'est le temps de la grâce, un temps où les âmes peuvent se tourner vers Dieu et implorer Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel. As-tu fait ce geste? As-tu fait ce pas de foi? De reconnaître que tu es un pécheur perdu et que seul Jésus-Christ peut te sauver? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse chapitre 10 verset 7 jusqu'au chapitre 11 verset 2. Bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Tu as dit une phrase que j'aimerais répéter pour nos chers auditeurs parce que je trouve qu'il est vraiment important qu'on la retienne afin de l'appliquer à différents moments de notre vie. Tu as dit ceci. Au lieu de chercher à couper ou à rallonger la parole de Dieu, laissons-la dire simplement ce qu'elle a à nous dire. Laissons-la nous transformer à la ressemblance de Dieu au lieu de chercher à la transformer à notre propre ressemblant. Mes amis, je me souviens dans mes toutes premières semaines en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau. Un bon ami à moi, un homme qui était chrétien depuis plus longtemps que moi, m'a mentionné qu'il y avait certaines personnes qui lisaient la Bible, et quand ils arrivaient à certaines pages qui leur faisaient voir que certains de leurs agissements devaient changer s'ils voulaient plaire à Dieu, ils bloquaient ces enseignements de leur esprit comme s'ils arrachaient ces pages de leur Bible. Ils les imaginaient en train de lire leur Bible en disant « Bon, cette page est bonne, je la garde. Cette autre page n'est pas bonne, je l'arrache de ma Bible et je la jette. » Il y avait un peu d'humour dans la manière de cet ami d'apporter un point important, qui est celui de ne pas prendre juste ce qui fait notre affaire, mais de prendre toute écriture de la Bible comme venant de Dieu, de son cœur plein d'amour pour nous, voulant notre bien et voulant que notre vie serve à sa gloire à lui seul. Et comme Régent nous l'a mentionné plus tôt, laissons la Bible nous transformer à la ressemblance de Dieu. Parfois, mes amis, j'avoue que ce n'est pas facile de pratiquer tout ce que Dieu nous demande, jusqu'au moment où on dit « Oui, Seigneur, je vais le faire ». Je peux vous le dire par expérience, après plus de 30 ans de vie chrétienne, je peux vous dire que lorsque Dieu me montre que je dois faire quelque chose qui me demande du renoncement, tant que je n'ai pas dit « Oui, Seigneur », il se passe une lutte intense au-dedans de moi. Mais dès que je dis « Oui, Seigneur », sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse et il me donne tout ce qu'il faut pour l'accomplir et ce n'est plus difficile. C'est pourquoi il nous dit dans le 11e chapitre de l'Évangile de Matthieu au verset 30 que son joug est doux et que son fardeau est léger. Quand on dit « Oui, Seigneur », il porte le fardeau avec nous et il devient léger. Ah, merci Seigneur. Et toi, mon frère, toi, ma sœur en Jésus-Christ, as-tu une lutte en ce moment, sachant que le Seigneur te demande une chose que tu trouves difficile à faire? Je t'encourage à dire oui, Seigneur, à dire oui de tout ton cœur, même si tu sens que tu n'as pas la force de l'accomplir. Je pense au Seigneur qui a parlé à Paul dans le 12e chapitre de la 2e épître aux Corinthiens au verset 9. Et si tu lui dis oui, Seigneur, il pourra te répondre la même chose. Il a dit ceci à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et on voit Paul qui dit ceci au verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors bon courage, mon frère. Bon courage, ma sœur. Dieu est avec toi. Alors j'aimerais terminer en citant les paroles d'un court chant qu'on a fait plusieurs fois lors d'un réveil. Je te dis « Oui, Seigneur, oui. » Je ferai ta volonté. Oui, Seigneur, oui, je te crois, j'obéirai. Quand l'Esprit me parlera de tout cœur d'accord avec toi, je te répondrai, oh oui, Seigneur, oui. Alors disons oui quand le Seigneur nous demande quelque chose. N'oublions pas ce qu'il a fait, lui, le Seigneur Jésus. Il a dit oui à son Père quand ça a été le temps d'accepter de mourir sur la croix pour payer pour nos péchés.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.